Le journal Florence Paracuellos. Bonjour Florence.
Bonjour Ali, bonjour à tous. À la une ce matin, plus dur sera le chômage. Entrée en vigueur du nouveau système d'indemnisation. Travailler plus pour gagner autant, voire moins. Explication dans un instant. Et parmi les réjouissances du 1er novembre, on s'intéresse aussi au tabac qui augmente de 50 centimes aujourd'hui. Et puis au transfert de détenus, c'est l'administration pénitentiaire qui en a la charge exclusive désormais, avec de gros ratés là où le système est déjà en vigueur. À suivre aussi le début des patrouilles conjointes entre l'armée turque et l'armée russe dans le nord de la Syrie. Et un grand entretien où il sera question d'amour, de BD et de laïcité. Tout ça, Ali Badou.
Oui, avec la dessinatrice Coco et le philosophe Raphaël Antoven, il signe une version revue et hilarante d'un des plus grands textes de l'histoire des idées, Le Banquet de Platon. Réponse aux questions que tout le monde, au moins une fois, s'est posée sur l'amour dès 8h20. Pour intervenir, le 01 45 24 7000. Et l'application France Inter.
Et avant d'en arriver au banquet de Platon, on se penchera sur la nouvelle télé d'Apple qui débarque aujourd'hui et sur une renaissance raquette à la main, celle de Joe Wilfried Tsonga, en quart de finale des Masters de tennis de Paris-Bercy.
France Inter.
Avant le chantier des retraites, voici l'autre réforme sociale majeure du quinquennat. C'est l'assurance chômage qui change à partir d'aujourd'hui avec deux objectifs pour le gouvernement. Favoriser le retour à l'emploi en économisant 3,4 milliards d'euros sur 3 ans. Pour ce faire, l'accès à l'indemnisation est durci. Dorénavant, pour toucher les allocations, il faudra travailler 6 mois sur 24 au lieu de 4 mois sur 28. Et pour recharger ses droits aussi, il faudra travailler plus. Sarah Lemoine, Pôle emploi a déjà prévenu les chômeurs concernés.
Régine est catastrophée et très en colère. Fin septembre, elle a reçu un courrier de Pôle emploi l'informant que les règles d'assurance chômage allaient changer et que cela la concernait. En ligne de mire, le rechargement des droits. Un dispositif qui, jusqu'ici, permettait aux chômeurs en fin de droit de prolonger leur indemnisation dès lors qu'ils travaillaient un mois. Or, à partir de maintenant, il faudra retravailler 6 mois pour recharger. Et ça, pour Régine, c'est mission impossible.
On ne trouve pas des contrats de 6 mois. On trouve que des contrats de 3 mois, 4 mois. 6 mois, c'est très rare. Les chômeurs, c'est pas tous des migos. Moi, j'ai Bac plus 2, 20 ans d'expérience en secrétariat, et je trouve rien.
Pour Régine, ce durcissement des règles d'assurance chômage est extrêmement injuste, d'autant qu'à 50 ans passés, elle dit souffrir de discrimination.
Moi, j'ai 51 ans, alors déjà ça, pour les quinquas, on n'en veut pas non plus. On a des pestiférés de la société, on n'en veut pas, on est fainéants. Moi, c'est pas mon cas, moi j'ai envie de m'en sortir, et voilà, et je ne trouve pas ça un mur. C'est sûr que cette nouvelle réforme, ça va faire mal à tout le monde. Hein. Il va y avoir davantage de pauvreté, de précarité, ça va flamber. Hein.
Le 21 décembre prochain, Régine aura épuisé ses droits à l'assurance chômage. Si elle ne trouve pas d'ici là un contrat de travail d'au moins 6 mois, elle ne pourra pas prolonger son indemnité. Elle basculera alors dans les minima sociaux, dit-elle, le RSA ou l'allocation de solidarité spécifique.
Et autre durcissement pour les cadres qui touchent plus de 3 500 euros net par mois. Leur allocation sera réduite de 30% à partir du 7e mois et puis à partir d'avril prochain, deuxième partie de la réforme, le calcul des indemnités chômage va changer pour baisser jusqu'à 50% pour ceux qui travaillent entre un quart et un mi-temps. En tout, l'UNEDIC estime que la réforme pénalisera un chômeur sur deux. Une punition qui va créer des drames. Selon Laurent Berger de la CFDT, il estime que les gagnants seront peu nombreux, donc les démissionnaires et les indépendants qui pourront désormais être indemnisés sous conditions ne sont donc pas suffisamment nombreux par rapport à ceux qui vont pâtir de cette réforme selon la CFDT. Et parmi les changements de ce 1er novembre, en vrac, le gaz augmente de 3%. L'allocation adulte handicapé est revalorisée de 40 euros. Elle passe à 900 euros par mois pour une personne seule. Dans les cantines scolaires, il faudra dorénavant servir un repas végétarien par semaine. Et dans les prisons, c'est l'administration pénitentiaire qui se chargera seule des transferts de détenus vers les tribunaux. Plus les policiers, ni les gendarmes qui n'ont pas le temps de s'en occuper. Dispositif généralisé à partir de ce vendredi, mais problème, Corinne Audouin, le nouveau système ne marche pas bien.
Sur les 8 premiers mois de l'année 2019, 10% des transferts judiciaires n'ont tout simplement pas pu avoir lieu. Cela signifie des procès renvoyés, des auditions chez le juge retardées, faute d'escorte pour les détenus. Dans une affaire de stupéfiants à Rouen cet été, cette carence a même entraîné la libération d'un prévenu. Il n'avait toujours pas vu de juge après 6 mois de détention. La question est devenue un motif d'exaspération chez les magistrats, déjà confrontés au manque de moyens de la justice. Céline Parisot, présidente de l'Union syndicale des magistrats.
Ça donne une image assez terrible parce que finalement, on a des retards qui sont pris, donc des délais encore plus longs. On sait que la justice n'est déjà pas forcément très rapide. et puis des victimes qui viennent, qui attendent à l'audience pour rien, puisque peut-être que la personne ne pourra jamais être amenée et donc elle ne sera pas jugée à ce moment-là, elles vont devoir encore revenir plus tard. On demande une vraie remise à plat des moyens avec des recrutements en conséquence, cette fois-ci et non pas au compte-gouttes comme toutes ces dernières années.
La situation est très variable selon les régions. Rennes et Lyon sont particulièrement touchées, quand en région parisienne, seul 1% des transferts n'ont pas pu être assurés. La situation s'améliore, souligne la chancellerie, qui assure chercher des solutions, comme l'utilisation de gendarmes réservistes pour résoudre les derniers blocages.
Corinne Audouin, voilà qui peut aider maintenant à prendre la décision d'arrêter de fumer en ce début du mois sans tabac. Le prix des cigarettes augmente lui aussi aujourd'hui de 50 centimes. Le paquet à plus de 9 euros, mais il y en a que ça ne dissuadera pas. Ce sont les frontaliers qui vont régulièrement acheter leur tabac ailleurs qu'en France. Les Alsaciens ont pris l'habitude de traverser le Rhin pour se fournir en Allemagne, où le paquet est un peu plus de 6 euros seulement, Corinne Fugler.
J'achète des clopes en Allemagne de temps en temps.
Je vais en Allemagne.
Je prends mon petit vélo et je vais en Allemagne.
Qu'est-ce que vous faites comme économie par rapport à ici ?
Du simple au double.
C'est genre deux fois moins cher.
À Strasbourg, en effet, il suffit de prendre le tram vers Kehl, en Allemagne, pour se fournir en cigarettes ou en tabac à rouler.
C'est plus avantageux. Je crois qu'il y en a beaucoup ici en Alsace qui vont tous en Allemagne. Je prends le bus et un tram, et j'y suis. Tous les débuts du mois, quand j'ai mes sous qui tombent, j'y vais, j'achète pour le mois, et je suis tranquille. J'ai pas le choix, sinon je prendrai en France, mais bon.
Comme de nombreux autres fumeurs, Anastasia a déserté les bureaux de tabac, qui peinent à diversifier leurs activités. Depuis 2002, un buraliste sur deux a baissé le rideau dans le département. Patrice Soyer est le président de la Chambre syndicale des débitants de tabac du Bas-Rhin.
On fait tout pour que ces gens-là aillent chercher leurs cigarettes en Allemagne. On met un tram à disposition. Alors les gens, moyennant le prix d'un petit billet de tram, vont chercher pour 1,40€ ou 1,50€. Ils peuvent ramener 4 cartouches. Faites le calcul. Vous avez un différentiel de 2,50€ sur un paquet de cigarettes. Une cartouche, ça va faire 25€. Calculez vite fait. 4 cartouches à 25€, ça fait 100€.
Rappelons qu'il est interdit de rapporter en France plus de 4 cartouches sous peine de sanction.
Corinne Fugler, France Bleu Alsace. Une fusillade dans un bar du 15e arrondissement de Marseille hier soir. 6 personnes blessées, dont l'une grièvement. Un homme a tiré au fusil à pompe avant de prendre la fuite. La veille, c'est un adolescent de 17 ans qui a été tué par un tir près de la gare Saint-Charles. La sénatrice socialiste Samia Ghali regrette que la société s'habitue au sifflement des balles à Marseille. À l'étranger, le groupe État islamique a désigné le successeur d'Abou Bakr al-Baghdadi hier. Un certain Abu Ibrahim al-Hashemi al-Qurashi, principal juge de Daesh. Il dirigeait jusque-là l'autorité de la charia pour le mouvement, selon un expert irakien. L'annonce de son nom dans un message audio est assortie de menaces contre les États-Unis. Pendant ce temps-là, en Syrie, les Kurdes, vainqueurs de Daesh, ont cédé la place dans le nord du pays. Et comme le demandait la Turquie pour arrêter son offensive, ils sont partis et l'armée turque va désormais patrouiller avec des militaires russes dans le secteur. Bertrand Galichet.
Le régime turc veut vérifier que les Kurdes ont bien abandonné la zone d'exclusion dont le périmètre a été défini conjointement avec Moscou. L'application de cet accord russo-turc confirme la place centrale de la Russie dans la région. Didier Billion, spécialiste de la Turquie à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques.
Désormais, c'est la Russie qui possède les meilleurs atouts pour tenter de parvenir à un accord de paix politique. Les opérations militaires, pour l'essentiel, sont derrière nous, donc il va falloir passer à la phase diplomatique. La Russie est incontournable. Quand elle s'engage sur un dossier, elle donne des garanties.
C'est la Russie qui a insisté pour que des patrouilles conjointes aient lieu.
C'est la Russie qui, quand même, impose son tempo, son agenda. Si des éléments de milices kurdes restaient dans la région qui, théoriquement, désormais leur est interdite, ces milices se feraient rappeler à l'ordre et par les Russes et par le gouvernement syrien.
Plus à l'est, où les combattants kurdes se sont repliés, des forces américaines patrouillaient hier dans une zone proche de la frontière avec la Turquie, un secteur que les États-Unis avaient quitté il y a 3 semaines.
Bertrand Galichet.
8h10, direction Rio maintenant, Florence. Suite et fin de notre série sur les murs qui fracturent le monde avant le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin la semaine prochaine.
Rio, où la démarcation est un peu plus nette entre les riches et les pauvres, les plus pauvres dans les favelas, les plus riches dans des lotissements ultra sécurisés. On les reconnaît à leurs murs d'enceinte. C'est un reportage d'Anne Vignard.
À Rio de Janeiro, les lotissements privés se repèrent vite avec leurs attributs. Des hauts murs, lourdes grilles, barrières et barbelés, sécurité privée, caméras de surveillance. Mais un spécialiste comme l'architecte Thiago Soveral déchiffre lui d'autres signes, et notamment les traces de l'espace public que le lotissement a dérobé.
Ça, c'était une rue qui a été fermée, et maintenant nous avons un mur de 2,50 m de haut avec des barbelés. Là, on voit bien l'interruption d'un accès public.
Aujourd'hui, les lotissements sont partout dans Rio, sous toutes les tailles et toutes les formes, y compris dans des zones protégées. C'est le cas d'un lotissement luxueux, en pleine réserve écologique, normalement inconstructible. Impossible d'y pénétrer ni de parler à un habitant, mais leur avocat assume très naturellement cette illégalité.
Même si ce lotissement a été construit sur un terrain qui était public et sans l'autorisation de la mairie, un lotissement a quand même été créé. Ce n'est pas encore un lotissement de droit, mais c'est un lotissement de fait.
La présence de hauts murs en pleine forêt, cette fois, est en effet une réalité. Et le reste de la ville n'a qu'à s'adapter à ces nouveaux ghettos toujours plus exclusifs. Rio de Janeiro, Anne Vigna, France Inter.
Le Brésil, où le fils du président Bolsonaro, député de son État, a expliqué hier qu'il faudrait restaurer la dictature si la gauche continue à se radicaliser comme dans les années 60, tollé y compris auprès des alliés du gouvernement Bolsonaro. Mon fils est prêt à présenter ses excuses, même si ses propos ont été mal interprétés, a justifié son président de père. Un sacré cocktail social du genre explosif en guise de pot de bienvenue pour Jean-Pierre Farandou, le nouveau PDG de la SNCF prend ses fonctions aujourd'hui alors que la grève continue chez les salariés qui assurent la maintenance des TGV Ouest. Deux autres sites ont été touchés par des débrayages hier sans répercussion pour le trafic. Dans l'Ouest, prévoyez 8 TGV sur 10 jusqu'à dimanche. Comment mieux contrôler l'activité d'Airbnb, du Bon Coin et des autres plateformes qui permettent aux particuliers de louer leur logement? À partir de maintenant, elles sont obligées d'en fournir la liste aux mairies chaque année, mais les villes n'ont pas attendu le décret du gouvernement pour sévir. À La Rochelle, par exemple, les loueurs doivent se faire connaître. Gérald Paris, il en va des finances de l'agglomération.
L'objectif est très clair. Avec la multiplication de locations sur de nombreuses plateformes, de nombreuses taxes de séjour échappaient au radar de la perception. Un sérieux manque à gagner pour l'agglomération. Jean-Louis Léonard, le vice-président de la communauté d'agglomération de La Rochelle, en charge du tourisme.
On veut y voir clair et surtout, on veut que la justice règne. Les plateformes qui, elles, encaissent la taxe de séjour de la part des locataires ne reversait ou reversait ce qu'elle voulait. Et nous n'avions absolument aucun contrôle. Pour nous, c'est un outil qui est très intéressant.
Une injustice est donc en passe d'être réglée. Les plateformes de location type Airbnb paieront cette taxe de séjour au même titre qu'un hôtelier. Les professionnels du secteur applaudissent à deux mains. Marion Richard, gérante de l'hôtel Le Rivage à Châtelaillon-Plage.
Pour nous, c'est évidemment une bonne nouvelle. C'est vrai que ça permet de plus réglementer et puis donner un cadre évidemment à la profession. On reverse tout ça à la communauté de communes, donc ça permet que tout le monde soit à même échelle et que tout le monde aille dans le même sens.
Autre combat à mener, limiter la durée des locations. Avec la loi Elan adoptée l'année dernière, un propriétaire s'exposait à une forte amende en cas de location d'un bien de plus de 120 jours par an. Ces derniers jours, le Sénat a donné la possibilité aux municipalités d'abaisser cette durée à 90, 60 ou même 30 jours par an. Un dossier qui sera prochainement abordé par l'agglomération de La Rochelle. Mais pour l'instant, rien n'est tranché.
Et dans la série, ces grosses plateformes américaines qui font leur beurre partout dans le monde, voici Apple TV, lancé en grande pompe aujourd'hui en France et dans une centaine de pays. Alors à quoi va ressembler ce nouveau service qui veut rivaliser avec Netflix ou Amazon? Réponse signée Alexandra Akoun.
C'est principalement via l'application Apple TV que ce nouveau service sera disponible sur tous les appareils de la marque, téléphone, tablette, boîtier et ordinateur. Mais pour une fois, Apple se fait moins élitiste. La firme californienne a passé des accords avec de grandes marques de téléviseurs connectés, LG, Samsung et Sony. Les utilisateurs d'Android passeront, eux, par le site internet de la marque. Après un essai gratuit de 7 jours, l'abonnement coûtera 4,99€ par mois pour 6 écrans. Tout achat d'un appareil Apple donnera droit à un an d'abonnement gratuit. Côté contenu, que des créations originales et des nouveautés tous les mois. Produit phare de ce lancement, The Morning Show avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon sur les coulisses d'une émission télé du matin.
The part you guys never seem to realize is that you don't have the power anymore. And frankly, I've let you bozos handle this long enough.
À 15 millions de dollars l'épisode, c'est désormais la série la plus chère de l'histoire. La marque à la pomme s'est aussi offert les services de la papesse de la télé américaine, Oprah Winfrey, pour un club de lecture avec de grands écrivains. J.J. Abrams livrera bientôt sa nouvelle série, également attendue, des productions signées Steven Spielberg. Bref, que du beau monde.
Alexandra Akoun. Et voilà maintenant les deux Français qui montent encore au Masters de tennis de Paris. Bercy, Tsonga et mon fils. Passeront-ils les quarts de finale? Tsonga, vainqueur de l'Allemand Struff, a rendez-vous avec Raphaël Nadal aujourd'hui. Et quelle que soit l'issue du match, Fanny Lechevestrier, ce premier quart disputé depuis 3 ans, sonne pour lui comme une renaissance.
Joe Wilfried Tsonga, qui a donné des frissons à tout le monde hier soir, a sautillé dans tous les sens juste après sa balle de match, heureux comme un gamin.
J'ai toujours joué pour ce moment-là, j'ai toujours aimé le show et j'aime jouer, j'aime le combat. Je sais qu'il me reste pas non plus 1000 ans à jouer, donc je profite de chaque moment comme si c'était un peu le dernier.
Et à 34 ans, le manceau sait de quoi il parle. Lui, dont la carrière a souvent été stoppée par les blessures. En début de saison, il pointait à la 239e place mondiale après une opération au genou et 7 mois d'absence. Mais jamais, il n'a voulu abandonner, passant même par les petits tournois de deuxième division pour retrouver son niveau et surtout l'envie.
Je pense que ça m'a fait du bien aussi de repartir un peu de zéro, de repasser par des tournois de seconde zone où tout est difficile, où il faut se battre pour tout. Et ça m'a redonné l'envie de rejouer au plus haut niveau. Et en fait, on se rend compte de la chance qu'on a. Nous, les joueurs de tennis, de l'extérieur, les gens disent c'est fabuleux ce que vous faites, c'est incroyable la vie que vous avez. Mais nous, c'est notre vie. Et on a l'impression que voilà, c'est la routine presque.
La routine, ce sera tout sauf cela ce soir pour Tsonga, bien conscient de disputer un match de gala face à Raphaël Nadal. Lui qui, quoi qu'il arrive, fera lundi son retour parmi les 30 meilleurs joueurs mondiaux.
Voilà pour le cas de Tsonga. Gaël, mon fils, lui, a rendez-vous avec le Canadien Chapovalov. Ça semble plus jouable que Nadal sur le papier. S'il l'emporte, mon fils, il gagne sa place pour les Masters de Londres dans 10 jours qui réunissent chaque année les 8 meilleurs joueurs du monde.
Merci Florence Paracuelos.